et le journal, c'est avec Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. C'est une décision qui ne sera pas sans conséquences au Moyen-Orient. Donald Trump compte bel et bien décertifier l'accord sur le nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson l'a confirmé cet après-midi. Nous serons en direct de Washington avec Grégory Phillips au début de ce journal. Le Moyen-Orient où le conflit couve ce soir dans la province pétrolière de Kirkouk. C'est l'une des conséquences du référendum d'indépendance kurde. L'armée de Bagdad cherche à reprendre des positions au Peshmerga. Précision à suivre d'Omar Waman. À l'UNESCO, la française Audrey Azoulay sera face au candidat qatari pour le poste de directeur général. Vote éminemment politique, va nous dire Nadine Epstein. En France, Richard Ferrand réhabilité. Le procureur de Brest a classé sans suite l'affaire des mutuelles de Bretagne. Analyse à suivre de Ludovic Piétenu. Et puis les victimes de l'amiante manifestent cet après-midi à Paris. Elles dénoncent l'absence d'une vraie perspective au pénal. Enfin, l'enquête du journal de 18h, elle concerne les activités du groupe Lafarge en Syrie. L'ONG Sherpa demande l'audition de l'ancien ministre Laurent Fabius, enquête signée Benoît Colombat, à la fin de ce journal. L'accord sur le programme nucléaire iranien était pourtant l'un des rares succès de la diplomatie internationale au Moyen-Orient. Donald Trump va y mettre un sérieux coup de griffe ces prochaines minutes. Le président américain s'exprimera à la Maison-Blanche dans trois quarts d'heure contre les avis de Pékin, de Moscou, des Européens ou encore de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il compte décertifier cet accord historique obtenu au bout de 12 ans. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
Correspondant permanent en direct de Washington, le secrétaire d'État Rex Tillerson a préparé le terrain tout à l'heure. Les États-Unis ne vont pas sortir de l'accord sur le nucléaire, mais cette procédure permet au président Trump de rouvrir le débat sur l'Iran au Congrès.
Oui, alors on va voir d'ici trois quarts d'heure ce que Trump va déclarer, mais son secrétaire d'État, vous l'avez dit, ça y est, a donné les grandes lignes. La Maison-Blanche a décidé de ne pas déchirer cet accord, en gros de ne pas le mettre à la poubelle, mais de ne plus le certifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les trois mois, Donald Trump doit dire, c'est la loi américaine qui l'exige, s'il considère que le régime iranien respecte bien les engagements pris sur le contrôle de son programme nucléaire. Depuis le début de son mandat, Trump a certifié deux fois l'accord, et donc là, il ne va pas le faire en refusant de signer cette certification. Ça veut dire que le président renvoie ça au Congrès américain qui, lui, devra décider. Voilà en gros l'idée. Ce qui est sûr, c'est que le discours de Trump tout à l'heure risque d'être virulent. Dans un communiqué de la Maison-Blanche qu'on a reçu il y a deux heures, il est précisé que le président considère, je cite, qu'il est temps que le monde entier se joigne aux États-Unis pour demander au gouvernement iranien de mettre un terme à sa politique de mort et de destruction.
Alors, le Congrès aura ensuite 60 jours pour décider de réimposer ou non des sanctions contre l'Iran. Comment se positionnent les parlementaires américains?
Alors ça, c'est un peu l'inconnu. Le Congrès est à majorité républicaine, évidemment. On sait que le camp conservateur en 2015 était tombé à bras raccourcis sur cet accord conclu par l'ex-président Obama. Mais depuis, on a vu même les plus fervents opposants à ce texte changer un peu de ton. Beaucoup pensent que si on déchire cette feuille de route, eh bien on pourrait se diriger tout droit vers une grave crise internationale. C'est d'ailleurs l'avis aussi des généraux qui entourent Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors il y a deux sénateurs républicains qui ont rédigé une proposition de loi qui sera examinée dans les prochaines semaines. Ils demande 1. à maintenir l'accord, 2. à ne pas sanctionner immédiatement Téhéran, mais 3. de renforcer ces sanctions s'il se confirme dans les prochaines semaines ou les prochains mois que l'Iran se rapproche de la fabrication d'une arme nucléaire. C'est en gros ce que vont proposer les républicains, mais il faudra voir si ce texte décroche la majorité qualifiée au Sénat, c'est-à-dire 60 voix sur 100, et ça veut donc dire qu'il faudra aussi aller chercher quelques voix démocrates.
Merci Grégory Phillips pour vos précisions en direct de Washington. Cette fragilisation de l'accord sur le nucléaire iranien, si elle se confirme, et c'est ce qui risque de se passer, risque d'affecter les équilibres en redéfinition au Moyen-Orient. L'Iran se bat en effet actuellement aux côtés des forces de Bagdad via des milices chiites. Ce soir, la tension est particulièrement forte dans le sud de la province pétrolière de Kirkouk. Kirkouk, revendiqué par les Kurdes en crise ouverte avec Bagdad depuis le référendum d'indépendance de la fin du mois de septembre. Les forces irakiennes cherchent à reprendre d'anciens postes militaires et ont repoussé les Peshmerga qui envisagent de répliquer Omar Waman.
Déterminé à reprendre le contrôle de cette région de Kirkouk, riche en pétrole, le pouvoir central a multiplié les avertissements et les menaces dès le lendemain du référendum sur l'indépendance organisé dans le Kurdistan. Menaces économiques et militaires, le Parlement irakien a même donné mandat à l'armée pour se lancer à l'assaut de cette région disputée. Ce qui est en jeu, ce sont les territoires revendiqués à la fois par les Kurdes et par Bagdad. Officiellement, Kirkouk est rattaché au pouvoir irakien, mais en réalité, ce sont les forces kurdes qui en ont la gestion depuis la débâcle de l'armée irakienne devant l'offensive de Daesh en juin 2014. Sans l'intervention des Peshmerga, Kirkouk serait tombé dans le giron des djihadistes comme Mossoul. Si le pouvoir central veut à tout prix reprendre pied à Kirkouk, c'est parce que cette région recèle près de 25% des ressources pétrolières de l'Irak. Épaulée par des milices chiites venues du sud du pays, l'armée irakienne a donc finalement lancé ses premières opérations dans la nuit pour reprendre les postes militaires abandonnés en 2014. Au petit matin, les forces de Bagdad ont repris sans combat le contrôle de plusieurs positions abandonnées par les Kurdes et sont désormais stationnées à 3 km des lignes des Peshmerga, lourdement armées et qui ont pour ordre de ne plus reculer. Devant le risque d'un affrontement, les autorités kurdes en appellent désormais à la médiation de la communauté internationale, sans laquelle une guerre peut éclater à tout moment.
Merci Omar Waman pour vos précisions depuis Beyrouth. 24 heures après le départ annoncé des États-Unis et d'Israël de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture arrive au terme du processus électoral pour désigner son ou sa future directeur ou directrice générale. La bataille s'est resserrée cet après-midi entre la Française Audrey Azoulay et le Qatari Ahmad bin Abdulaziz Al-Kawari, l'Égyptienne Mouchira Kattab ayant été éliminée 25 voix contre 31 lors d'un vote pour la départager d'Audrey Azoulay. Elles étaient arrivées toutes les deux hier à égalité avec 18 voix. Bonsoir Nadine Epstein.
Bonsoir.
Le gouvernement égyptien appelle ce soir à soutenir la Française Audrey Azoulay.
Et les 25 pays qui cet après-midi ont choisi l'Égypte et non la France pour affronter le candidat qatari reporteront-ils tous leur voix sur Audrey Azoulay comme le demande le Caire? C'est la question. Les enjeux ont pris une tournure politique puisque rappelons que le Caire est en crise diplomatique avec Doha depuis le mois de juin. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes et Bahreïn ont formé un front anti-Qatar. Ces quatre pays arabes ont imposé un embargo accusant Doha de financer des mouvements terroristes et de soutenir l'Iran. Concernant le vote à l'UNESCO, certaines déclarations égyptiennes font planer le doute sur d'éventuels achats de votes de pays africains par le Qatar. Des soupçons et des interrogations qui pèsent sur l'intégrité de l'Émirat depuis qu'il a été désigné hôte du Mondial 2022 en 2010 et l'ouverture en mars dernier d'une enquête suisse pour soupçon de corruption privée qui vise deux dirigeants sportifs dont le président du PSG proche de l'émir du Qatar. Au sein de l'organisation dont le siège est à Paris, les soupçons de pot de vin ne visent pas le seul Qatar. La probité d'ailleurs est l'une des questions qui se posent dans des organisations multilatérales comme celle de l'UNESCO où la géopolitique s'invite et s'impose alors que la raison d'être de cette agence onusienne et la défense de la culture, de l'éducation, en particulier celle des filles, de la liberté de la presse et de la sauvegarde du patrimoine, des socles de toute démocratie.
Merci Nadine Epstein pour vos explications. L'affaire Richard Ferrand, désormais classée sans suite par la justice. Le chef de file des députés de La République En Marche était soupçonné d'avoir favorisé sa compagne à l'époque où il était directeur général des mutuelles de Bretagne et élu local socialiste, affaire révélée par le Canard Enchaîné au mois de mai dernier. Dans sa décision, le procureur de Brest a invoqué la prescription de l'action publique. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir à tous.
À l'instant, Richard Ferrand se félicite dans le journal Le Figaro d'avoir été lavé de tout soupçon et effectivement, c'est la réhabilitation de cette figure clé de la Macronie.
Oui, ni escroquerie, ni abus de confiance, ni emploi fictif. Le parquet de Brest l'avait déjà dit dès la fin du mois de mai. Les faits ne relèvent pas d'une ou plusieurs qualifications pénales permettant d'ouvrir une enquête, mais c'est sous la pression médiatique, l'accumulation d'articles dans le Canard Enchaîné, le journal Le Monde aussi, mais aussi des déclarations parfois contradictoires des différents acteurs du dossier que le procureur brestois avait fait marche arrière 6 jours plus tard. Enquête ouverte, il a pris son temps, 4 mois pendant lesquels Richard Ferrand a rasé les murs. Il a d'abord dû quitter son très éphémère poste de ministre de la Cohésion des Territoires pour prendre la tête du groupe majoritaire et pléthorique des marcheurs à l'Assemblée nationale, mais il y était quasi invisible et cela lui a été beaucoup reproché en très haut lieu. pas ou peu de médias avant début septembre. Et puis on l'a vu, plus rond, mais toujours encore un peu en retrait à la rentrée. Cette affaire, si elle n'était vraisemblablement pas pénalement répréhensible, choquait quand même beaucoup de gens, y compris à l'intérieur du mouvement En Marche, pour des questions d'ordre moral. Une épouse privilégiée ainsi qu'une ex-femme. La première s'est enrichie au passage sans débourser quasiment le moindre euro. Et puis des assistants parlementaires aussi qu'il n'aurait pas déclaré, parmi lesquels son fils. Sur ce point, le procureur ne s'est pas prononcé. C'est donc un patron de groupe encore affaibli, carbonisé, disent les plus pessimistes de ses collègues, et qui va dans les prochaines minutes à 19h se relever et passer à l'attaque en dénonçant, comme il l'a toujours fait, une affaire uniquement médiatique.
Analyse politique signée Ludovic Piétenu. Le plan du gouvernement pour un égal accès aux soins dans les territoires est plutôt bien accueilli par les syndicats de médecins, même si la Fédération des médecins de France estime par exemple que le gouvernement a compris le problème, mais pas son ampleur. Ce sont 200 millions d'euros qui ont été débloqués ce matin pour résorber les déserts médicaux. Les mesures concrètes ont été détaillées par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et le Premier ministre, Édouard Philippe, à Chalut, en Haute-Vienne. Bonsoir, Tara Schlegel.
Bonsoir, Anne.
Parmi les mesures fortes, le doublement des maisons de santé, mais aussi le développement de la télémédecine.
Alors, le gouvernement mise sur deux procédés, Anne. La téléconsultation, quand un patient face à un grand écran voit à distance son spécialiste, et puis la télé-expertise, qui permet cette fois à des généralistes isolés d'entrer en contact avec un autre médecin spécialiste qui donne son avis sur le malade. À Anor, dans la petite maison de santé de ce village de quelques 3000 habitants, le docteur Dessa est installé depuis décembre 2016 et il a utilisé pendant 4 mois la télé-expertise. Et puis l'expert, une doctoresse qui était à Maubeuge, a quitté l'hôpital. C'est donc un système un peu contraignant.
On a surtout mis beaucoup de temps pour pouvoir arriver à envoyer une photo à un expert et d'avoir tous les feux verts légaux et au niveau des droits informatiques qu'il faut absolument respecter, heureusement pour le patient, que ces informations médicales ne se retrouvent pas perdues dans la folie d'Internet où n'importe quel assureur pourrait retrouver. Maintenant, reste à trouver un expert qui soit intéressé, motivé. Et c'est vrai qu'intégrer ce procédé informatique dans notre activité, qui parfois, l'un comme l'autre, est déjà assez rempli, c'est, que ce soit pour nous et pour l'expert, un bouleversement dans nos habitudes. On ne peut pas se permettre de tâtonner, de balbutier et de mettre une heure et demie pour faire quelque chose qui, en une consultation normale, aurait pris un quart d'heure ou 20 minutes ou un peu plus. Mais il faut que ça marche, quoi.
Alors, malgré ces soubresauts, le docteur Christophe Dessa croit en cette technologie. Cela dit, certaines zones très isolées en France n'ont justement pas de bonne couverture Internet. Alors, le gouvernement va dépenser 23 000 euros par établissement pour les équiper. Les fonds d'investissement seront doublés l'an prochain. Il s'agit surtout d'équiper les EHPAD pour éviter le déplacement des personnes âgées.
Merci Tara Schlegel pour votre reportage. Le secrétaire général de la CFDT demande à Emmanuel Macron de rééquilibrer sa politique économique dans un sens plus social. Laurent Berger, qui était le dernier responsable syndical, a rencontré cette semaine le chef de l'État pour discuter des prochaines réformes du quinquennat, assurance chômage, formation professionnelle ou encore apprentissage. Emmanuel Macron, qui n'est pas non plus tout à fait sorti de la mobilisation contre la réforme du code du travail, tout comme les routiers, les dockers demandent des garanties pour que leur convention collective puisse conserver la primeur sur les accords d'entreprise. Anne-Laure Chouin, une brèche semble ouverte car ils ont obtenu gain de cause. Nous n'avons pas le papier d'Anne-Laure Chouin, donc nous allons passer au prochain sujet. Les victimes de l'amiante et leurs proches ont défilé cet après-midi dans les rues de Paris. Plusieurs centaines de personnes ont effectué leur marche annuelle pour demander un procès pénal. François Desrios est vice-président de l'Association nationale des victimes de l'amiante. Il est interrogé par Antoine Marette.
Malheureusement, les dernières décisions de justice en matière pénale ne nous sont pas favorables. On craint qu'il y ait un non-lieu généralisé qui soit rendu par les juges d'instruction. En tout cas, c'est le désir qu'ils ont manifesté au pôle judiciaire de santé publique. Et c'est aussi le souhait du parquet qui a emboîté le pas et qui a pris des réquisitions en faveur d'un non-lieu. Et ça, c'est juste insupportable. En gros, elles considèrent qu'on ne peut pas déterminer la date d'intoxication et donc on ne peut pas remonter aux responsabilités, on ne peut pas les dater, on ne peut pas faire le lien entre la commission d'un acte et les dommages subis par des victimes. Et nous, on soutient le contraire et on s'appuie sur un rapport scientifique et les arguments que donne cette expertise disent précisément qu'on peut parfaitement remonter aux responsabilités puisque ce n'est pas une date d'intoxication qui compte, c'est une période d'exposition. Et s'il y a bien une chose que l'on connaît dans chaque dossier des victimes, c'est les périodes pendant lesquelles et au cours desquelles les salariés ont été exposés. D'accord. Donc utiliser un argument faux au bout de 21 ans d'instruction, c'est juste lamentable, enfin, c'est malhonnête. Ou alors les magistrats n'ont pas lu le rapport qu'elles ont commandé, ou alors elles ont envie d'expédier et elles prennent n'importe quel prétexte fallacieux pour le faire. Mais c'est pas possible de faire ça au bout de 21 ans, c'est une insulte aux victimes.
Des propos recueillis par Antoine Marette. L'enquête du journal de 18h ce soir. Nous revenons sur l'affaire de la cimenterie Lafarge en Syrie. Une information judiciaire a été ouverte en juin dernier. On sait, le groupe franco-suisse soupçonné pour avoir versé de l'argent à des terroristes en Syrie et notamment le groupe État islamique. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir.
Vous nous révélez que l'association Sherpa, qui est partie civile dans cette enquête, demande aussi l'audition par la justice de Laurent Fabius. Pourquoi l'ancien ministre des Affaires étrangères ?
Eh bien parce que devant les enquêteurs, d'anciens responsables du géant du ciment affirment que le Quai d'Orsay était parfaitement au courant de ce qu'il faisait en Syrie. Des dirigeants de Lafarge vont même jusqu'à dire que ce sont les autorités françaises qui les ont poussés à poursuivre leurs activités sur place pendant la guerre. Pour l'association Sherpa, le Quai d'Orsay doit donc s'expliquer là-dessus.
On le rappelle, l'entreprise est restée plus de 2 ans malgré les combats.
Oui, et pour continuer à produire du ciment, elle aurait payé des bakchiches à des groupes armés, y compris aux islamistes de Daesh. 11 anciens salariés de Lafarge ont également saisi la justice par le biais de l'association Sherpa. Ils estiment que leur employeur les a mis en danger, notamment en septembre 2014, lorsque la cimenterie est attaquée par des hommes de l'État islamique. Écoutez la responsable du contentieux chez Sherpa, Marie-Laure Guislain.
Aucun plan d'évacuation n'est prévu. Depuis des années, on leur dit qu'un bus d'évacuation sera là le jour où ils devront évacuer en urgence. Ce bus n'est pas là. Lafarge, Paris et Syrie leur donnent l'ordre de rester dans l'usine, alors que tous les managers ont mis à l'abri leur famille et que toute la région a déjà fui puisqu'ils savent qu'une attaque est imminente. Pourtant, on demande à ces salariés de rester sur place et ils doivent, 2 heures avant l'attaque, fuir par 3 véhicules, dont une moto, par leurs propres moyens. Ils ont envoyé un mail commun à la direction, indigné, en demandant tout simplement pourquoi Lafarge voulait leur mort.
Alors je précise que Lafarge, de son côté, explique qu'un plan d'évacuation de l'usine était bien prêt et que, même si les choses ne se sont pas passées comme prévu, il n'y a eu ni mort ni blessé.
Donc ces anciens employés demandent l'audition de Laurent Fabius. Et qu'est-ce qu'on répond au Quai d'Orsay ?
Alors, pas de réaction officielle pour l'instant, mais de sources diplomatiques, on conteste avoir fermé les yeux et on assure même avoir prévenu Lafarge des risques encourus à l'époque.
Mais il y a d'autres questions qui se posent autour de cette cimenterie Lafarge. Vous avez découvert, Benoît, que l'État syrien avait carrément un pied dans l'usine.
Oui, selon nos informations, l'État syrien est entré au capital de Lafarge en Syrie pendant la guerre civile. En fait, le régime de Bachar al-Assad a récupéré les parts de la cimenterie que détenait un homme d'affaires syrien. Alors 1,33% du capital, ça peut sembler dérisoire, mais ça n'est pas anodin. Alors qu'à l'époque, la France n'a pas de mots assez durs pour condamner le régime de Bachar al-Assad, alors que des sanctions internationales visent la Syrie, eh bien, au même moment, Damas est parvenu à entrer dans le capital de la filiale syrienne de Lafarge.
Et cela, la France le savait ?
En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'en septembre 2014, la diplomatie française était au courant. C'est ce que nous avons découvert dans un document confidentiel rédigé par le conseiller de l'ambassadeur de France en Jordanie. Une phrase très courte mais lourde de conséquences. Écoutez.
Bien qu'ultra-majoritaire, Lafarge doit désormais cohabiter avec l'État syrien comme coactionnaire de son usine.
Voilà, ce diplomate vient donc de comprendre que le régime de Bachar al-Assad a bien un pied dans l'usine française et il transmet immédiatement l'information à Paris. La question est délicate. Selon plusieurs experts que nous avons contactés, cette présence de l'État syrien dans une entreprise française à l'époque ne tomberait pas forcément sous le coup des sanctions internationales. En tout cas, c'est l'un des nombreux fils que la justice doit encore démêler, car côté syrien comme côté français, certains pouvaient avoir intérêt à ce que cette usine continue à fonctionner, même en pleine guerre.
Lafarge en Syrie du ciment à tout prix. Benoît Colomba, votre enquête menée avec Élodie Guéguin est à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. Et nous vous retrouvons, Anne-Laure Choin, pour parler des dockers, tout comme les routiers. Ils demandent des garanties pour que leur convention collective puisse conserver la primeur sur les accords d'entreprise. Une brèche semble ouverte dans la réforme du Code du travail, car les dockers ont obtenu gain de cause.
La Fédération CGT des ports et docks l'a annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Elle a signé au ministère des Transports un protocole d'accord actant le principe, en résumé, que la convention collective des ports et docks restera la norme dans l'organisation et la rémunération du travail, et ce malgré les ordonnances. Les organisations patronales du secteur parlent, elles, non d'un protocole d'accord, mais d'une confirmation par l'État du principe de faveur de cette convention collective nationale, tout simplement parce que certaines de ces dispositions sont inscrites dans la loi via le Code des transports. Des garanties qui n'étaient pourtant pas si évidentes, puisqu'il aura fallu 2 réunions au ministère pour les reconfirmer, et que les dockers s'étaient vus notifier par le ministère du Travail que leur métier, comme les autres, serait susceptible d'être touché de plein droit par les ordonnances. Ce ne sera donc pas le cas, et on ne peut effectivement s'empêcher de penser aux routiers qui ont obtenu les mêmes garanties il y a quelques jours. Alors les similitudes sont nombreuses entre les deux métiers, notamment des primes de nuit et de pénibilité qui constituent une partie importante du salaire, mais aussi un pouvoir de blocage non négligeable et potentiellement coûteux. Une différence aussi, la structure du secteur routier. En majorité des petites entreprises, sans représentants syndicaux susceptibles de négocier dans l'entreprise, quand les dockers français, eux, travaillent pour la plupart dans des établissements publics ou semi-publics où la présence syndicale est forte.
Explication d'Anne Lorchouin. La météo de votre samedi 14 octobre, une fois passées les brumes matinales, le ciel sera lumineux partout en France et les températures, elles seront douces au réveil de 14 à Cherbourg jusqu'à 21 à Marseille. Journal préparé avec Jean-François Braun à la technique, c'était Emmanuel Morse-Duncan.